En 2006, Nicolas Cage ira tourner dans un film qui parle de, pour les Américains, la plus grosse tragédie du monde. Bienvenue dans Citizen Cage.
Cop car. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it.
What?
I'm gonna steal the Declaration of Independence.
Put the bunny back in the box.
I'd like to take his face off.
Bonjour à tous et bienvenue dans Citizen Cage, le podcast qui parle des films de Nicolas Cage dans l'ordre chronologique. Comme d'habitude, je suis un de vos hôtes, Alexis Duclos, et je suis accompagné par mon cher ami Julien Asuncao. Salut Julien.
Hello Alexis, pour ce podcast de la joie et de la bonne humeur.
On va s'amuser, et aujourd'hui, bah écoute, on va parler de quoi Julien?
De World Trade Center, donc tu as déjà fait une intro très politique. on va s'attirer les haters des États-Unis qui écoutent notre podcast évidemment. Il n'y aura pas énormément de choses à dire sur ce film, en tout cas sur le sujet. Je pense que les gens connaissent un peu ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Même s'il y a peut-être, on a peut-être un auditoire très très jeune, on ne sait pas,
mais c'est possible,
donc,
hein.
qui pourra du coup s'instruire grâce à nous, évidemment. Mais il s'agit également d'un film américain de 2006 qui est réalisé ni plus ni moins que par Oliver Stone, avec Michael Peña, Maria Bello, Maggie Gyllenhaal et bien sûr Nicolas Cage dans les rôles principaux.
T'as oublié Michael Shannon ou?
Oui, mais en fait j'ai pas vu le film, mais dans la bande-annonce il apparaît pas, donc je me suis dit qu'il servait à rien. Mais c'est vrai qu'on aime bien Michael Shannon.
Moi j'aime bien Michael Shannon.
C'est vrai. Mais il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc l'histoire, c'est deux officiers de police du Port Authority Police Department qui se retrouvent pris au piège sous les décombres du World Trade Center, donc suite à, évidemment, aux avions qui ont heurté les deux tours jumelles qui ont fait s'effondrer l'édifice. Ce qui est intéressant surtout, c'est que c'est le réalisateur, hein, vu que, et on parle ici de Oliver Stone, donc qui est un réalisateur très politique, qui fait beaucoup de sujets justement sur la politique. Donc il a fait les films sur Nixon, enfin sur le Watergate. Il a fait des films, beaucoup de films sur la qui parlent de l'armée américaine en règle générale. Et là, on a un film qui, au premier abord, en tout cas de mon œil extérieur, a l'air assez patriotique, assez premier degré. Est-ce que je me trompe?
Premièrement, chose qu'il faut dire, c'est que je n'aime pas Oliver Stone.
Ah.
Je n'aime vraiment pas Oliver Stone. Il y a un film que j'apprécie d'Oliver Stone, c'est Natural Born Killer.
Ouais, que j'aime pas trop moi.
Et j'ai rien contre Snowden. Mais la raison pour laquelle j'ai rien contre Snowden, c'est parce qu'il y a Nick Cage dedans.
Ouais, et puis il est assez plat.
Ouais. Bah oui, voilà. Mais j'aime pas Oliver Stone et je l'aime encore moins quand il prend un gros parti pris, on va dire. Puis là, on s'entend qu'on va regarder un film qui est incroyablement patriotique pour l'Amérique. Il faut savoir qu'en plus, le 11 septembre, c'est un truc aux États-Unis où tu peux pas faire un vrai film, en fait. T'as juste pas le droit. T'es obligé de... Et je suis pas en train de parler de genre... J'ai pas envie de partir dans de la politique, hein, mais c'est vrai que le 11 septembre, c'est tellement un sujet si touchy pour les Américains et pour le gouvernement américain que t'as pas le droit, en fait, de faire un film qui serait un peu, pas forcément edgy, mais qui serait pas patriotique, en fait.
Et surtout, enfin, on va dire que j'ai l'impression, en tout cas, là aussi, c'est encore une fois, c'est sans avoir vu le film, mais de ce que j'avais vu tourner autour, c'est que en fait l'action se passe vraiment, il a concentré son action sur ce qui se passe au moment des faits.
Oui.
Et il n'y a pas forcément grand chose d'intéressant politiquement à dire sur ce moment-là. C'est plus un mettre en avant les héros qui ont donné leur vie pour sauver des gens. Et là, bon, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Ce qui peut être intéressant, ça va plutôt être de parler des répercussions que ça a eues sur la société américaine. Mais est-ce que là, 5 ans après, est-ce qu'il y avait forcément assez de recul? Peut-être pas. En tout cas, si l'action se concentre vraiment sur ce qui s'est passé le jour même, bon, je suis pas étonné qu'il n'y ait pas grand-chose à dire.
Et voilà, parce que c'est ça, c'est un film qui est sorti en 2006, donc comme tu dis, 5 ans après, même s'il a été tourné entre octobre 2005 et février 2006, donc ça fait plus genre 5 ans après vraiment que genre le temps d'écrire et tout ça, t'as raison, est-ce qu'il a eu le temps d'avoir un gros retour sur les changements sur la société et tout ça, mais en même temps t'as raison, c'est clairement pas le sujet comme tu dis, c'est sur les héros, sur le moment. Et on va s'avouer que personnellement, ce genre de biopic, parce que au final c'est un peu un biopic, c'est sur des vraies personnes, ça m'intéresse pas forcément spécialement. C'est sur un attentat terroriste qui, bien qu'il soit qu'il ait été incroyablement meurtrier, a pas une histoire incroyable derrière. Je veux dire, c'est un mec qui a fait des menaces, puis il a fait ses menaces, quoi. Tout le truc politique derrière aurait été en fait beaucoup plus intéressant à explorer que ça, de ma pour moi, là, je parle pas pour... Et il y a aussi le fait que voilà, je suis pas un grand fan d'Oliver Stone, parce qu'Oliver Stone, c'est un gars... faut reconnaître que ses films, ils sont lents, quoi. Il a un style qui est très posé, qui est très lent, et j'ai pas... Enfin, c'est un film qui dure 2 heures. Hein. Me taper 2 heures de Nick Cage enseveli sous des gravats, filmé par Oliver Stone qui va filmer ça comme si il était gériatrique, ça ouais, pour en plus que ça fleure bon le patriotisme américain, ça m'enchante moyen, quoi. Je pense de tous les, ça, comme toi, hein, c'est un film que j'ai pas vu, et je pense que de tous les films de Nick Cage qu'on a regardé, c'est littéralement, et qu'on va regarder après, c'est littéralement le film qui m'intéresse le moins, quoi. J'ai pas envie de regarder ce film là.
Ouais, bah écoute, moi c'est vrai que j'ai un peu une relation un peu particulière aussi avec Oliver Stone, dans le sens où il y a des films que j'apprécie de lui et il y en a que j'aime pas du tout, donc mais il m'a rarement il y a rarement un film qui m'a subjugué, donc je suis pas le plus grand fan, quoi.
Ouais.
Mais voilà, bon, tu vois, j'aime bien Platoon, mais j'aime pas Turner, j'aime bien L'Enfer du Dimanche parce que ça parle de foot américain, mais c'est
bah
tout,
c'est
quoi.
Ça ouais, L'Enfer du Dimanche, je l'aime bien.
Puis
ça, c'est un film que j'apprécie.
Al Pacino, ouais, voilà. Est football américain, donc forcément.
Mais tu vois, c'est ça le truc, c'est que L'Enfer du Dimanche, il est cool parce que l'histoire, c'est sa réalisation, elle m'énerve, il est trop lent dedans, il fait des pannes dégueulasses, il prend son temps, des moments, et des moments t'es juste genre passe à autre chose, quoi, je coupe. Fais autre chose, s'il te plaît. Et alors que, mais par contre, les scènes de football, Pacino qui est genre à fond, elles sont super bien filmées, quoi. Il a du talent, Oliver Stone. C'est, tu fais pas une, t'as pas une carrière comme ça sans avoir du talent. Né
un 4 juillet, j'aime bien aussi.
Né un 4 juillet est un film que j'adore, mais c'est pareil. C'est parce que Tom Cruise, il vole l'écran, quoi. Il y a quelque chose par rapport à. C'est pas un mauvais réalisateur non plus. C'est un réalisateur qui me parle moins. Mais c'est vrai que, en général, ça dépend pas mal de son sujet. Et là, le sujet qu'il a, comme il a rien à faire avec, je suis convaincu que tout ce qu'on va avoir, c'est des trucs lents, quoi. Et ça me.
Ouais, si c'est un exercice de style où c'est deux hommes qui sont en train de se batailler contre la mort pendant 2 heures, ça va vite être assez épuisant. Mais bon, écoute.
Et mais voilà, bon, je pense après. Il n'y a pas forcément de grand chose à dire non plus là-dessus. La chose que je vais dire, c'est un petit aparté pour nos auditeurs, parce que je trouve ça, entre guillemets, amusant. C'est qu'à un jour près, on enregistrait cette, cette, comment on appelle ça, cette intro le 11 septembre, puisqu'on a, on l'enregistre le 12. Donc, on était à ça de la, de la greatness américaine, mais bon, raté. Mais voilà, par rapport à World Trade Center, le film, je pense pas qu'il y a plus que ça à dire.
Ok, bah écoute, je pense que on va essayer de, on va pas être plus méchant avec le film que ça avant de le voir quand même. On va ouais. essayer de le voir avec quand même, s'il est bon.
On va essayer d'être objectif.
Voilà, toute l'objectivité qu'on nous connaît. Et puis on n'hésitera pas. Non, moi c'est, on a fait plusieurs mea culpa déjà dans l'histoire
non,
de ce podcast.
Non, c'est vrai,
donc,
on avoue.
On n'hésitera pas si en fait c'était super intéressant à le dire, mais pour ça il faut le voir et donc je te propose qu'on s'y attelle tout de suite.
Absolument.
Lieutenant, I was down on B1. The shafts there are buckling. There's going to be people trapped in those elevators.
Jeez, just took us an hour to get up to 30 in Tower 1. I didn't want us over in 2.
What happened in 2?
I don't know.
You guys be careful, okay?
Yeah, stay safe.
Et on est de retour après avoir vu World Trade Center de Oliver Stone.
Un film de 6h40.
Un film qui... Alors, je vais peut-être commencer par un léger mea culpa, I guess.
Ouais.
Parce que tout le monde sait, tout le monde qui me connaît sache que je n'aime pas Oliver Stone.
Sur ton français, ta gestion du français me...
toute personne qui me connaît sait que je n'apprécie pas Oliver Stone, mis à part quelques films un peu particuliers. J'avoue que probablement que ce film-là fait partie des films particuliers, même s'il a toujours cette utilisation dégueulasse de faire traîner sa caméra et donner l'impression qu'une scène de 3 minutes dure 1h15. Mais il faut reconnaître que les meilleures parties de ce film sont assez impressionnantes. Donc, petit mea culpa de ma part. Et puis, voilà. Et c'était l'épisode sur World Trade Center.
Alors que moi, j'aime pas spécialement trop Oliver Stone et je fais pas de mea culpa. Voilà.
Ok, d'accord.
Non. Mais...
Oliver, si tu nous écoutes.
Non, mais pas.
Julia,
non, non, mais après, de toute façon, on va en parler assez rapidement. Enfin, je vais en parler assez rapidement parce que justement, des choses à dire sur l'intro, enfin, qui est sur le début du film. Après, là, c'est vrai que le film est. A un découpage assez particulier, enfin, il a des scènes qui reviennent et qui sont pas forcément très intéressantes, donc le résumé là va être assez court, on va pas rentrer dans le détail, on va plus parler de, parce que c'est vrai que le film se découvre vraiment en gros blocs, je trouve. Propose de parler déjà de la première partie qui est l'introduction avant que ça se mette à péter. Parce que justement, moi j'ai c'est là où j'ai trouvé que c'était super bien réalisé.
Oui.
J'ai trouvé ça très bien réalisé, très dynamique. Justement, il fait comprendre des choses du scénario, des personnages, juste via la réalisation, ce qui est quand même très sympathique parce qu'il n'y a pas d'encart, c'est pas grossier dans la présentation des personnages. Alors ça aide du fait que ça soit quand même une histoire qu'un peu tout le monde connaît.
Oui. C'est ça que j'ai aimé, c'est que c'est pas un film qui a essayé de te réexpliquer quelque chose que tout le monde connaît, en fait. Il aurait pu tellement passer du temps sur d'où est-ce que les avions ils viennent, pourquoi, comment, blablabla, c'est pas le film, en fait.
C'est à la fois sa qualité et son défaut. Enfin, ça peut se transformer en défaut sur certains points, enfin, je trouve, moi, personnellement. Par contre, c'est un choix, et là-dessus, c'est assez respectable d'avoir fait ce choix-là. Mais effectivement, donc après, ce qu'on peut dire sur l'intro, c'est qu'elle sert surtout à présenter les différentes personnes qui vont intervenir dans le film.
Oui et non, c'est-à-dire que ça va servir à présenter. Elle va surtout servir à présenter des gens qui.
Les officiers, malheureusement. Ceux qui vont être dans la tour, en tout cas.
Voilà, et qui malheureusement vont décéder. Donc au final, les gars, on les voit 20 minutes, puis après, c'est fini. Donc on présente pas tant ces personnages-là, on présente surtout parce qu'au final il y a juste
on les présente, c'est juste qu'ils vont pas durer tout le film.
Non c'est ça, mais ce que je veux dire c'est que en fait c'est étonnant parce que je suis le genre de personne qui a beaucoup de mal avec le patriotisme et y a vraiment une ligne sur laquelle Oliver Stone joue qui est entre le respect ce qui est super important et ce qui est super tout à fait correct, et le patriotisme. Et ce moment-là, en fait, le début est clairement dans le respect, et puis j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà. Il présente ces gens-là, parce qu'il faut quand même le rappeler, c'était des vraies personnes, hein, on s'entend, là, c'est pas une fiction. Et du coup, bah voilà, il présente les gens qui sont allés, qui ont intervenu pendant ce moment d'histoire-là. Et c'est ça, en fait. Ils auraient pu nous présenter toute la comment on appelle ça, la troupe de policiers, finalement, parce qu'il y a pas que, ils nous présentent en particulier, il me semble, 5 personnes.
Ouais, ça doit être ça. Enfin,
5 ou 6 personnes. Et on apprend un peu plus tard qu'il n'y a pas juste 5 personnes qui partent dans le truc. Mais par contre, c'est ces 5 personnes-là qu'on suit, en fait, qui vont être dans la même équipe et qui vont partir entre les deux tours. C'est cinq personnages-là qui sont présentés, en fait.
Ouais, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a besoin de les présenter et de te les faire apprécier très rapidement, en fait. Parce que,
très, très rapidement,
au final, ouais. Il entre quand même assez vite dans le cœur du sujet. Il aurait pu aussi faire le choix, peut-être, de prendre la moitié du film pour présenter les personnages, mais lui, là, c'est pas ce qui est fait. Là, c'est d'aller assez vite, donc en fait, c'est aussi un tour de force quand même que tu t'appropries les caractères, etc., en assez peu de temps, parce qu'il va leur arriver quelque chose de tragique, et l'objectif, c'est quand même que tu ressentes quelque chose pour eux quand ça va arriver.
Est-ce que tu veux revenir sur ce point plus tard, ou est-ce qu'on en parle maintenant? Parce que je trouve, en fait, justement, ça super intéressant, personnellement.
Quel point?
Le point d'avoir fait ce choix-là, de commencer directement avec 5 minutes dans le film, les avions arrivent et ça pète.
Ouais, bon, on peut en parler maintenant parce que, bah, juste pour grossièrement dire, faire l'histoire, en fait, effectivement, donc on a les 5-6 qui sont présentés et qui vont être sous les ordres de Nicolas Cage, qui joue, alors je sais plus comment il s'appelle son personnage.
Il s'appelle John McLaughlin.
Ah oui, voilà, c'est ça. Qui est donc l'officier le plus haut gradé de la petite équipe là, et qui en plus est présenté comme quelqu'un qui a déjà vécu quelque chose un peu similaire, va savoir maîtriser ce genre de choses, et donc ils vont récupérer.
On s'entend que pour l'instant c'est à l'époque où ils savaient pas encore qu'il y avait des avions, ils pensaient que c'était quelque chose qui pouvait contrôler. Avait déjà contrôlé une attaque terroriste au World Trade Center, mais qui n'était pas du tout de la même amplitude, et du coup ils étaient genre c'est le gars, c'est l'autorité sur le sujet, mais au final que dalle, quoi.
Mais voilà, donc ils vont récupérer de l'équipement et là ils partent pour aller sauver des gens. Pour l'instant ils sont au courant qu'à une des deux tours qui a été touchée, puis après ils apprennent qu'il y a une deuxième tour qui a été touchée, et c'est le moment où tout s'écroule et ils se retrouvent coincés. Voilà. Donc juste une fois qu'on a dit ça, effectivement, si tu voulais revenir sur le point, sur le choix de placer justement ce point de bascule assez tôt dans le film.
Je trouve ce choix absolument ballsy et super, oui. En fait, super. Je pense que j'aurais moins aimé le film s'il avait fait ça de l'autre manière. Parce que on s'entend, un film qui s'appelle World Trade Center, tout ce que tu sais, tout ce que tu veux attendre, tout ce qui se passe, c'est les avions. Et en fait, je trouve que c'est vraiment le meilleur choix possible. C'est ça, tu te présentes des gens. Et le truc, c'est que si t'as un minimum d'empathie dans ta vie, là, si t'es pas un gros psychopathe, ça prend vraiment rien. Là. On s'entend. Bon, même si, on s'entend qu'on est un peu dans un monde en ce moment, nous spécialement à l'époque en 2020, là où on enregistre ce film, où la confiance avec la police,
pour les gens qui
nous écoutent
en 2070 et qui comprennent pas du tout de quoi on parle.
C'est possible, c'est une possibilité. Confiance avec la police, elle est un peu érodée, donc c'est facile de juste dire c'est des policiers machin, mais en vrai là, le film prend 5 minutes pour humaniser ça super facilement. On t'explique que voilà, Michael Peña, donc qui joue Will Rimeno, qui est en fait la deuxième personne qui survit. Parce que
spoiler alert.
Qui reste coincé, en fait. Quand je dis qu'il survit à l'effondrement des tours. Par rapport aux 5 autres personnes. Qui finalement se. comment dire, bah voilà, on apprend qu'il a une femme, on apprend que, mais c'est, en fait c'est absolument génial parce que
bah ça c'est fait un peu plus tard dans le film en fait. Pour les deux personnes qui vont justement rester coincées et pas mourir tout de suite, ça on va l'apprendre au fur et à mesure du film. Pour les autres personnages, c'est obligé d'être encore plus court, quoi.
Mais le truc c'est ça, c'est que en fait ce qui est absolument incroyable, c'est à quel point finalement t'es lancé dans ce truc-là. En vrai, soyons honnêtes, comme je disais, à moins que tu sois un psychopathe, t'es déjà un minimum investi par l'histoire. Parce que au final, c'est quand même genre 3000 personnes qui sont mortes dans un truc d'avion. Ça reste un attentat terroriste. Peu importe peu importe ta politique, peu importe ce que tu penses de ça.
Il n'y a pas besoin d'être américain.
Voilà, il n'y a pas besoin d'être américain, patriotique, peu importe. Ça reste 3000 personnes qui sont mortes de manière absolument monde écrasé par deux tours, c'est dégueulasse, quoi. Et en gros, le fait de nous balancer comme ça là-dedans et que au bout de 3 minutes, l'avion arrive, ça explose, les mecs sont balancés, on les balance dans un bus, on leur dit vous allez au World Trade Center, la confusion qui sort de ça, eh ben en fait elle est parfaite parce qu'au final c'est pas si important qui sont ces personnes-là pour l'instant. Ce qui est important c'est le fait que ils étaient confus as fuck. Et que nous aussi, on l'est complètement. Parce que justement, voilà, on ne sait pas qui c'est, on connaît juste leur nom. On est poussé là-dedans. La caméra d'Oliver Stone, elle est fixe, entre guillemets. C'est rarement la caméra qui bouge, c'est plus le reste autour qui bouge. Enfin, tu sais, c'est... Voilà, on est autant perdu que ces gens-là qui vont à un endroit où ils ne savent pas du tout ce qui se passe. Et en vrai, c'est un tour de force parce qu'au final, nous, on sait ce qui va se passer. On sait exactement qu'il y a deux avions qui ont frappé deux tours. Eux, ils ne le savent pas. Et donc, arriver à nous mettre dans cet état de confusion aussi, d'être juste genre attends, qui c'est que je suis, ok, et en même temps nous donner très rapidement les 5 personnages qu'on va suivre et nous dire même si vous êtes confus, intéressez-vous surtout à ces 5 personnages là, vous verrez plus tard, c'est pas grave. On sait que de toute façon Nick Cage, dès qu'il est à l'écran, t'as juste envie de regarder Nick Cage parce que honnêtement il est c'est Nick Cage, quoi. Michael Peña, qui a aussi beaucoup de temps à l'écran, est incroyable. J'ai trouvé en fait que c'était super ballsy. Puis ouais, on vous l'a pas dit, mais en gros la manière dont ils nous présentent les personnages, c'est tout simplement en nous montrant le tag de leur nom costume,
sur leur uniforme.
Sur leur uniforme, merci. Donc
non, et puis voilà, ils ont des échanges en fait. C'est un peu ça, c'est un truc qu'on voit assez souvent. En fait, ils sont en train de marcher pour aller... donc, ils prennent le bus. Donc là, il y a via les échanges qu'ils ont entre eux, on apprend un peu plus sur leur caractère. Pareil, après, voilà, quand ils sont en train de récupérer l'équipement et tout, etc. Après, oui, moi, de mon côté, sur le côté ballsy, je suis entièrement d'accord. Après, sur le fait que ça soit la bonne décision, je suis moins sûr. Je sais pas si c'était... Je dirais pas que c'était la mauvaise non plus, mais c'était... Ça réussit pas les mêmes choses en tout cas. Tu vois, par exemple, le côté avoir de l'émotion pour les personnages, moi j'en ai pas forcément eu pour eux. J'en ai eu parce que justement c'est une catastrophe tellement immense. En fait, j'ai l'impression que le truc survit de par l'immensité de ce qui est en train de se passer. Mais les personnages en eux-mêmes, tu vois, par exemple, je me rappelle pas, je pourrais même pas te donner le nom des gens, je pourrais pas forcément te citer les traits de caractère et tout. Enfin, je vois ce que le film essaye de faire, mais je trouve qu'il a peut-être manqué un peu de temps. Mais après, c'est quelle était la volonté du film, si c'était vraiment de récupérer le max d'émotions possible sur ce qui va arriver à ces gens, peut-être que avoir une introduction un peu plus longue, une scène d'exposition un peu plus longue où on vit d'autres choses avec ces personnages avant, d'autres interventions, ça aurait eu plus de résultats, je pense. Mais ça peut aussi ne pas être l'objectif du film. Mais je trouve quand même que ça va, il va pas atteindre totalement la réussite qu'il aurait pu avoir quand il leur arrive ce qui leur arrive. Et pareil, surtout et après les deux personnages que tu vas suivre derrière, ça manquait un peu. Il y a d'autres choses qui vont se rajouter derrière. Mais après, ce qui va se rajouter derrière, c'est de dire « Ah, ils ont une femme, ils ont une famille, en fait. » Et là, ouais, c'est là où on tombe un peu plus sur le côté américain, de la famille.
Oui,
et
oui,
qui va
oui,
peut-être moins nous toucher.
Un peu plus
et là,
long,
ouais. Là, c'est moins universel. je trouve.
Et tu vois, par exemple, ce qui est assez drôle, c'est que, bon, il a clairement fait ça parce qu'il voulait probablement donner le même temps d'écran aux trois autres personnes qui sont
ça, je trouve que ça marche bien. Parce que tu sais que tu vas avoir le temps après pour les autres.
Mais le truc qui était bizarre, c'est à quel point, parce qu'il y a aussi John Bernthal dans ce film. Et John Bernthal, ouais, il joue un gars qui s'appelle Chris, ça je m'en souviens. Je me souviens pas de son nom complet, mais je sais que il l'appelle Chris. Et la raison pour laquelle je me souviens de lui, c'est pas juste parce que c'est John Bernthal, c'est tout simplement parce qu'en fait son introduction elle est faite à part. C'est-à-dire que tous les autres sont plus, parce que voilà, il fait pas partie du Port Authority Cop, il fait partie d'autres choses. Voilà. Et le truc c'est ça, c'est
son premier jour.
Comme ils l'ont présenté à part, eh ben il sort plus. Et du coup, je me souviens plus de lui que des deux autres gars, alors qu'au final, il disparaît très très rapidement.
Et que, ouais, bon, après, je pense que c'est aussi parce que c'est une tête connue. Enfin, il y a ça qui joue aussi, quand même.
Tu sais, genre, enfin, je veux dire, techniquement, je devrais me rappeler plus du gars qui était coincé au début avec Nick Cage et Michael Peña. Puis, malheureusement, j'arrive pas à me souvenir de son nom. Ce qui est, donc c'est peut-être un petit peu, t'as raison, c'est peut-être pas forcément super réussi. En tout cas pour le côté présentation. Par contre, comme je disais, le côté confusion, il marche super bien.
Oui, ça marche bien parce qu'effectivement, il montre bien ce côté, ça tout ce truc où en fait ils apprennent qu'au dernier moment qu'il y avait quelque chose à la deuxième tour. Ils sont pourtant en plein milieu des c'est en train de se passer. Mais jusqu'au dernier moment, il y en a un qui, au téléphone avec sa femme, qui lui dit je viens d'apprendre que la deuxième tour a été touchée aussi. Et en même temps, ils ont les informations officielles de leur supérieur qui leur disent non, il n'y a que la première. Enfin, donc
puis
ça marche
personne
bien.
Personne veut les croire. Tout le monde est genre non, c'est juste la fumée de la première tour qui fume sur la deuxième. Tu sais, c'est parce qu'ils ne veulent pas croire ça, quoi. Ce qui est tout à fait en vrai logique, là. T'as pas envie de croire ce genre de truc.
Parce que la première tour, c'est un accident, c'est un avion qui s'est crashé pour différentes raisons. La deuxième, c'est que c'est un attentat, quoi.
C'est l'attaque, quoi. Et c'est là justement qu'on rentre plus ou moins dans le vif du sujet, qui est justement en fait, eux, ils sont dans le tunnel entre les deux tours, et le tunnel s'effondre, et donc eux, ils restent, ils essayent de s'en sortir en se mettant sous l'ascenseur, qui est en général l'endroit le plus solide d'un immeuble.
Oui, et puis ils essaient d'éviter, il y a une espèce d'avalanche de gravats qui arrive sur eux, donc ils vont se mettre dans un couloir aussi, sauf que ça se passe pas exactement comme prévu, effectivement.
Et ils restent coincés là-dessous, donc on a Nick Cage, on a Michael Peña, donc on a John McLaughlin et Will Jimeno qui sont coincés là-dessous. On a aussi un troisième gars que malheureusement j'ai oublié, et qui va aussi malheureusement décéder assez rapidement. Et
là, on est sur ce qui représente peut-être trois quarts du film.
Donc on va avoir coincés,
eux
en fait.
qui ont un échange. Alors ils sont séparés les deux. Ils sont tous les deux coincés
comme genre
sous des
30 mètres d'écart.
Ouais, puis ils se voient pas en fait. Il y a des gravats entre deux.
C'est ça.
Ils sont tous les deux coincés. Il y en a un qui a principalement sa jambe qui est sous un gravat, alors que Nicolas Cage est carrément, je crois que tout son corps...
Complètement enseveli.
Voilà, ouais. Ses deux genoux sont écrasés, et même sur son plexus, il a des gravats. Et en fait, donc on va voir à la fois les deux qui interagissent, parce qu'ils peuvent quand même s'entendre, pour se donner du courage. Nicolas Cage... pour que son coéquipier reste éveillé, parce qu'il sait que s'il s'endort, il peut ne jamais se réveiller. Et ensuite, on va avoir ça qui est entrecoupé par la réaction de leur famille. Ce qui va se passer du côté des familles qui savent pas, en fait, qui sont en attente d'infos, qui apprennent au fur et à mesure que, effectivement, les deux sont bien allés, sont bien intervenus sur place. Pendant un temps, les deux sont considérés comme disparus. Mais on ne sait pas si... Enfin, pour l'instant, il n'y a rien de confirmé sur le nombre de morts, parce que c'est très dur, et ça pourrait durer très longtemps, quoi.
Puis, en plus, ils sont en plein milieu dedans, là, ça vient juste d'arriver, c'est le même jour, c'est... donc forcément...
Généralement, ce genre
semaines,
de choses, il faut des semaines et des semaines pour au final déterrer, même une fois que tu n'as plus d'espoir, il te faut des semaines et des semaines pour avoir des confirmations officielles du nombre de morts. Donc, ces deux choses en parallèle, et on passe de l'un puis, à l'autre en même temps que les personnages se racontent des choses sur leur vie et donc sur leur famille, où il lui dit oui, moi j'ai une femme qui s'appelle comme ça, etc.
Et aussi pour vous donner une idée de ça, ils le disent à la fin, mais moi je suis allé dans le film en sachant ça. Ils expliquent qu'en gros, bon, il y a eu 4000 personnes qui étaient dans l'immeuble et qu'au final ils ont réussi à en sauver genre 20
après coup.
Donc
dans les personnes ensevelies.
Oui.
À dégager
il y a quand même des gens qui ont réussi. Mais voilà, il y avait quand même un truc comme genre un bon 500 personnes ensevelies, puis ils en ont sauvé peut-être 20, pas plus. Mm-hmm. Donc c'est quand tu sais ça, c'est difficile de le film fait vraiment une grosse job absolument incroyable de ouais, tu sais pas là. Tu mm-hmm. sais absolument. Pour un peu que tu saches pas qui est John McLaughlin et Will Rimeno.
Oui, moi je savais pas, donc je savais pas. S'ils allaient survivre ou pas. Hein. Parce que vu le temps du film, ils peuvent très bien mourir tous les deux. C'était pas du tout interdit. Il y a certains films où tu sais très bien que les personnages principaux ils vont survivre. Mais là, c'est pas l'idée. Donc. Mais voilà, donc cette grosse partie, moi personnellement, j'ai trouvé très longue. Oui. En fait, le problème, c'est qu'il y a une partie, donc l'introduction qui est intéressante, et là, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. C'est du temps pour du temps. Ils vont s'échanger des banalités, tu vas voir plein de fois, plusieurs fois les mêmes scènes. À côté de ça, la famille, alors, bien sûr, c'est intéressant un petit peu de voir comment va réagir la famille, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Ils sont tristes, ils sont perdus. Ouais. Il y en a qui pètent un peu un câble, il se trouve que voilà, il y a une femme qui est enceinte, enfin ça ok. En plus j'ai trouvé que Maria Bello et Maggie Gyllenhaal qui jouent donc les deux femmes de Nicolas Cage et Michael Peña, je les trouvais pas
les deux femmes de Nicolas Cage
et Michael Peña.
Non, je sais, mais ça me fait rire.
J'ai pas trouvé leur jeu de très réussi.
Non, moi j'étais content de voir Maggie Gyllenhaal, mais c'était pas non plus incroyable.
Ça va, mais un peu forcé, alors que oui, voilà, d'habitude, pas de soucis.
C'est pour être honnête, je pense que c'est la partie la plus patriotique du film, avec ce qui se passe avec Michael Shannon, puis...
Ouais, Michael Shannon. Bon, c'est...
Mais le truc, c'est que c'est ça, c'est littéralement un film, pour moi, c'est un film qui dure 2h10, je crois, qui aurait largement pu être coupé d'une demi-heure.
Bah, en fait, c'est dommage, enfin... C'est pas le temps le problème, c'est qu'il ne raconte rien d'intéressant.
Non, c'est ça.
Parce que nous dire que les familles elles sont tristes, bah oui, ok. Enfin, c'est une évidence.
Mais
c'est des familles trop classiques pour que ça ait un intérêt. Elles ont même pas de particularité, ces familles.
Oui, c'est vrai que pour nous c'est pas important, mais c'est vrai que pour les Américains c'est sûrement très patriotique et machin. Donc,
oui, mais ça change rien en fait qu'elles ont pas de particularité, les familles.
Non, le fait est que je trouve que le faire une ou deux fois dans le film, en sens, ok, le principe même de ce genre de choses, c'est justement de faire quelque chose qui est un peu ennuyeux pour se rendre compte que attendre c'est chiant en fait.
Ouais.
Attendre de savoir qu'est-ce
mais
qui t'arrive.
Le problème c'est qu'il se passe rien d'intéressant en parallèle. En fait, souvent dans ce genre de film, ce qu'ils peuvent faire, par exemple, c'est il y a ça, eux ils sont bloqués, c'est chiant ce qui se passe pour eux, mais en parallèle tu suis l'avancée des secours, ça arrive des fois, souvent c'est dans les films de thriller, des machins comme ça, où tu suis l'enquête en parallèle. Donc il se passe quelque chose d'intéressant en face. Sauf que là, ce qui se passe en parallèle, ce n'est pas intéressant. Donc en fait, tu entrecoupes des scènes chiantes avec des scènes chiantes. Donc t'as pas ce...
Non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, je comprends le but. Vraiment, le but, je pense, c'était vraiment de montrer que attendre, c'est chiant. Et que justement, si tu coupais sur quelque chose qui n'est pas chiant, t'enlèves le fait que... c'est chiant. Mais le problème, c'est que fais-le une ou deux fois. T'as pas besoin. Parce que je pense que ça arrive littéralement 15 fois dans le film. Fais-le une ou deux fois. Montre-nous une ou deux fois que c'est chiant. Puis après, c'est bon. Passe à autre chose. Puis surtout, c'est genre. Ce qui est un peu horrible. Et ça, c'est le problème que j'ai avec le film personnellement. C'est que pour moi, c'est un film d'horreur en fait. Ce film est un film d'horreur. Il le considère comme un drame survival. Blablabla. Pour moi, ce film, c'est un film d'horreur. Parce que les moments où t'es avec Nick Cage et Michael Peña dans ensevelis, c'est claustrophobique au possible. J'avais peur, là. Je sentais, là... Ça fait longtemps que les films d'horreur me font plus peur, moi. me font plus peur là. Mais ce film là, j'ai eu la même sensation que quand je regardais Dunkerque. C'était genre j'étais genre j'arrivais, j'avais du mal à respirer, c'était compliqué.
Parce que la ville fait peur aussi, mais.
Et oui, le film de Christopher Nolan. Et t'es là, et t'es genre oh mon dieu, et tout d'un coup, c'est chiant. Et en fait, ce changement là, bien que c'est toujours agréable d'avoir un changement de rythme, surtout quand t'es dans un moment où c'est genre super anxiogène et tout ça, mais le passé de genre ah, je suis à 100, puis tu tombes à 0, quoi. Et tu tombes à 0 pendant longtemps, et tout d'un coup, t'es censé remonter à 100. C'est un rythme qui est, qui est compliqué, quoi.
Bah, le problème, c'est que moi, tu vois, la partie anxiogène, je ne l'ai pas eue parce que je trouve que c'est mal réalisé à ce moment-là. En fait, non, que c'est feignant. J'ai l'impression que Oliver Stone, au début, j'étais là, je fais « Ah putain, ouais, le début, c'est super bien filmé, ça fait plaisir et tout. » Et là, dès qu'il arrive là-bas, il n'a plus d'idées. Alors, je comprends l'idée de dire « Ah oui, mais c'est un petit espace, donc on peut les filmer que d'un angle. » Mais en fait, ça, d'accord. Mais au bout d'un moment, il y a le réalisme entre guillemets, et puis le côté où, enfin, je sais pas. Enfin, je trouve qu'il aurait pu bien mieux réussir ce côté anxiogène, claustrophobe. Il y a des films qui le réussissent mieux que lui, que ça. Et je pense que c'était bien la direction dans laquelle aller, mais que ça n'a pas été assez bien réussi.
Quelqu'un comme Sam Raimi aurait probablement fait quelque chose de bien mieux que ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Parce qu'en plus
c'est triste, je suis d'accord avec ça, c'est triste parce que je me suis rendu compte personnellement que moi le côté anxiogène c'était surtout situationnel, c'est-à-dire que genre, enfin moi c'est littéralement une de mes plus grandes peurs de rester enseveli sous un fucking immeuble, donc c'est quand je vois ça à l'écran je suis genre ok, quand Michael Peña se prend littéralement des boules de feu dans la face,
ouais.
Parce qu'il y a des explosions qui arrivent de partout, que le gun à côté de lui se met à tirer tout seul parce que c'est trop chaud, enfin ce genre de choses,
tu vois, ça,
genre, oh mon dieu,
c'est des scènes qui peuvent être assez impressionnantes, mais elles sont pas réalisées en fait.
Elles sont très sobres. Mais ça, oui, ça c'est mon problème avec Oliver Stone personnellement, c'est qu'il laisse la caméra tourner, il la pose à un endroit puis
dans l'intro ça allait, quoi, je trouvais.
Oui.
C'est pour ça que, mais même, ouais, non, je sais pas, ouais, du coup, je trouve que ça a pas fonctionné. Je pense que la même partie, en tout cas, pas forcément la partie sur la famille, parce que ça, bon, je trouve que c'était pas, il y aurait quelque chose d'autre à faire. Mais tu vois, je pense qu'il aurait pu passer même plus de temps sur Peña et Cage, et je pense qu'un autre réalisateur, enfin, en tout cas, quelqu'un avec le même scénario aurait pu faire mieux, en tout cas, pas forcément automatiquement, mais aurait pu faire mieux, clairement.
Je suis absolument d'accord avec toi là-dessus.
En fait, je sais pas, la caméra limite a été trop loin d'eux. Limite une caméra plus collée ou une caméra. Là, j'ai l'impression t'as pas l'impression qu'ils avaient vraiment trop de problèmes pour respirer. Tu vois, des moments où ils ont du mal à respirer, des moments où ils bouffent de la poussière, je sais pas, y a pas ça. En fait, mais tu sens qu'ils ont mal, ils sont coincés, mais sinon, ils ont l'air calés, quoi.
Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que c'est justement exactement l'exemple que tu viens de dire me rappelle ce moment-là où justement il y a Michael Peña qui se reçoit une espèce de genre de, bah, tu sais, de la
oui.
Du sable ou tu sais des, il se reçoit justement de la poussière en masse sur sa gueule, et tout ce qu'il fait c'est juste il pose sa caméra là et il le filme comme ça, et à un moment il y a un gros plan puis il revient sur le même truc, et ce moment-là j'étais genre mais, enfin, je sais pas, moi ça c'est la chose qui me donnerait le plus, enfin tu sais, ça prendrait ça, en plus je pense, pour être honnête, je pense que tu pourrais facilement le hack, en fait. Il y a des gens qui seraient bien plus intelligents que moi qui pourraient le faire, mais je pense que juste ne serait-ce que d'avoir rajouté un léger chèque sur la caméra avec un léger filtre qui donne l'impression que t'es claustro, ça aurait déjà rendu le truc un peu plus intéressant à regarder, en fait. T'as raison, ouais, des gros plans.
La question que je me pose, et en parlant du film, j'ai l'impression que c'est possiblement le moyen de mettre le doigt sur quelque chose. C'est que j'ai l'impression qu'il a pas voulu mettre à mal ses personnages parce qu'il voulait les rendre forts. Parce que si on regarde bien, il y a aucun moment où tu vois, s'il y en avait un qui pouvait avoir une crise de panique, parce que ça aurait été quelque chose d'intéressant. En fait, ils ont pratiquement pas mal, en fait. T'as quelques moments où ils disent, ah bah ouais, j'ai les deux, je peux pas te parler parce que j'ai les deux genoux qui sont écrasés. Mmh. Voilà, il le dit.
C'est ça, okay. Ouais,
il hurle un peu.
C'est vrai que c'est le seul moment
limite,
d'hystérie un peu.
Et c'est le seul moment où t'es mal quand il se met à hurler, quand il hurle pour rien et que t'as l'autre, son coéquipier, qui l'entend hurler pour rien sans voir ce qui se passe. Ça, c'est stressant. Mais en fait, ouais. La plupart du temps, c'est juste des mecs, ils sont complètement écrasés, mais ils ressentent rien. Ils sont là et ils attendent. Et c'est des héros.
Et tu vois,
quoi. Ils sont trop
cette
forts.
Scène-là. cette scène-là, c'est pareil, tu vois. T'as tout, tu viens de mettre le point sur le truc. Là. La chose qui est vraiment effrayante là-dedans, c'est de ne pas le voir.
Bah oui.
C'est de ne pas le voir. Et qu'est-ce qu'il fait, Oliver Stone ? Il te fout une caméra sur Nick Cage qui gueule. Au lieu de le mettre du point de vue de Peña qui l'entend.
Il y a un petit moment un peu après où il le fait du point de vue de Peña. Et là, ça marchait bien, mais c'était trop tard. Mais par exemple, voilà, tu mets la caméra collée sur le mec, vraiment très proche, pour donner le côté claustrophobe. Et là, tu fais en sorte qu'il lui arrive un truc que lui n'est pas capable de voir, et que du coup, toi, t'es pas capable de voir non plus, parce que la caméra n'est pas à cet endroit-là. Mais ça aussi, c'est des trucs comme ça. Mais en fait, il a eu aucune créativité. Et là, franchement, je trouve que c'est très feignant comme façon de réaliser.
Il y a des moments. Bah, après, soyons honnêtes, c'est peut-être aussi un problème à l'editing, et pas forcément à la réalisation.
Je vois pas pourquoi. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a pas ces plans-là n'existent pas. C'est même pas qu'ils sont d'édition.
Ah oui, bah ça c'est aussi une possibilité. Hein. Mais
moi, je pense qu'il y a une grande feignantise.
Tu sais quoi ? Parce qu'en fait, j'aime vraiment beaucoup la manière dont on est en train d'analyser tout le film. J'aime vraiment ça. Donc je pense que ça vaudrait le coup en fait qu'on passe rapidement, vite fait, sur ce qui se passe jusqu'à la fin du film. Puis comme ça, on peut juste décortiquer rapidement tout ce qu'on a.
Ouais, bah de toute façon, c'est ce qu'on avait dit. On l'a dit en intro. Hein. Enfin, c'est que ce film-là, on n'allait pas le traiter comme un film classique parce que au niveau de sa structure narrative, c'est pas un film classique. Il n'y aurait pas d'intérêt à faire un résumé bête et méchant. Mais effectivement, on peut un peu couper là cette partie-là et parler de la toute fin en fait, qui dure pas si longtemps que ça, mais qui est le troisième morceau, on va dire, du film.
Que j'appelle l'acte Michael Shannon, en fait.
Ouais,
parce que c'est
ça.
Tout lié à lui. Voilà, en fait, dans le film, Michael Shannon joue un gars... Qui... Alors, par contre, ça, c'est
alors, je sais pas littéralement... si c'est mal expliqué, mais j'ai un peu loupé, moi, les quelques infos. Hein.
C'est le truc le plus patriotique du film, ouais. En fait, littéralement. Et c'est un peu nauséabond, pour être honnête. Pour les gens, ouais, qui aiment pas ça comme moi, là, moi, j'ai trouvé ça, c'est chauffe dans ta face. Là, Oliver Stone, c'est ça qu'il sait faire. Puis c'est pour ça que j'aime pas Oliver Stone. Là, c'est genre, né un 4 juillet, là, j'aime ce film, mais ça empêche pas qu'il te balance, du patriotisme dans ta bouche comme si t'avais faim, quoi. Alors que non. Et en gros, bah voilà, Michael Shannon joue un gars qui est un ancien marine des États-Unis. Alors, soyons honnêtes. Quand je pense à ancien marine des États-Unis, je pense pas à Michael Shannon, parce que Michael Shannon est probablement aussi sec que moi, peut-être même plus, surtout dans ce film, il est super sec, et t'es genre, yo, t'es... mais bon, bref, marine des États-Unis, qui est en train de parler avec son prêtre comment on appelle ça, pas une église, bien sûr, parce que c'est les États-Unis à fond, là, t'es genre, ouais,
là, c'est le segment, de toute façon, il a tout est mis là-dedans, hein.
Et en gros, il est genre, moi, il faut que j'aille à New York, quoi. Je peux pas être ici. Bon, ce qui est actuellement tout à fait une excellente chose de la part de ce mec-là, parce que c'est, comme on dit, c'est une vraie personne qui a vraiment fait ça, alors qu'il est plus du tout dans les marines, quoi, et que les civils sont pas acceptés sur le World Trade Center. Donc le gars, il part à New York habillé comme un marine, il se fait passer pour un marine et il rentre dedans pour aller aider des gens. Et c'est là aussi qu'on apprend que le mec est juste complètement... Il est convaincu que le pays est déjà en guerre, il est genre, les bâtards qui ont fait ça, ils vont payer, blablabla. Bla bla. Donc déjà, t'es genre, ok, patriotisme à fond, tu sais très bien ce qui va se passer avec ce gars-là, il n'y a aucun problème. Et bien sûr, à la fin du film, t'apprends que ce mec, il est retourné en Irak pour 2 tours, donc t'es genre, ok, très bien, on sait où ça s'en va. Des fois, les gens sont tout à fait prévisibles, et lui, il l'était clairement. Mais le point important là-dedans, c'est qu'à un moment, il finit par entendre...
C'est assez bizarre ce qui se passe, d'ailleurs. Parce qu'en fait, t'as vraiment l'impression que c'est un dieu, le mec. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre à expliquer. Il se met en tenue de marine. Et en fait, c'est la nuit, donc ils ont un peu arrêté les recherches et tout. Les mecs sont bataillés tout le temps. Et lui, il arrive, il marche dans son habit comme ça. Et limite, il flotte au-dessus de la terre. Il avance.
Il est filmé, ouais.
Et il les trouve hyper facilement... Genre,
facilement, oui, non, mais... c'est sur son chemin.
J'exagère,
mais...
je comprends
ton impression.
Il arrive comme ça, il se baisse, il les ramasse et il les sauve. C'est pas exactement ce qui se passe, mais...
Le pire dans tout ça, c'est qu'on dirait que Michael Shannon, lui, par contre, est complètement au courant que, genre, c'est grotesque. Parce qu'il le joue d'une manière un peu... Pas surjouée, mais un peu, genre... Enfin, moi, il m'a fait rire, Michael Shannon, dans ce film-là. J'étais genre, attends, c'est trop, quoi. C'est trop. Il fait plein de calls super dégueulasses, comme genre, le moment... Ok, donc voilà, ils finissent par trouver
Will. Les dialogues
Will.
Sont ridicules, ouais.
Ils finissent par trouver Will, donc ils sont genre, ah, ok, il faut qu'on appelle les pompiers, machin, donc les pompiers arrivent, puis là c'est pareil, on a un deuxième gars, il nous le montre, bah c'est un ancien docteur qui a plus sa licence, donc blablabla, enfin tu sais, c'est genre, c'est des personnages en couleur, en fait on vous dit que finalement, si du temps que vous êtes des héros, c'est pas important si vous avez un permis, bravo les gars, le dialogue que je me souviens le plus de tout le film, c'est donc t'as un des pompiers qui se rend compte qu'il faut qu'il descende justement dans un trou et qu'il n'y a pas beaucoup de place, donc faut qu'il y aille sans aucun équipement. Et là t'as Michael Shannon qui lui passe son couteau et qui est genre prends ce couteau de combat, c'est un couteau des marines, le meilleur couteau jamais créé. Et puis t'es genre mais mec, est-ce que tu essayes de le faire, de sortir cette ligne comme si c'était drôle ou c'est juste drôle sans le vouloir, parce que je sais pas, enfin moi le patriotisme ça me fait, ou c'est peut-être juste moi que ça fait rire, mais c'était hilarant.
Ouais, puis mais à la fin ce petit message pour dire qu'il est reparti dans l'armée, c'est vraiment un coup, ouais. C'est vraiment la il manquait plus que le engagez-vous.
Ah non, mais parce qu'en plus c'est ça, quoi. C'est parce que à la fin du truc tu le vois qui est genre notre gouvernement va avoir besoin de bons gars pour réparer ça. Et puis après, juste après ça, t'as le truc qui dit, ah, il est retourné ce... Puis t'es genre, ok, mec, ok, très bien. C'est un peu over-ended. Mais en tout cas.
Mais voilà, bref. Donc,
les pompiers finissent par, bah voilà, descendre avec eux pour sortir Will et John de manière quand même tu sens que ça a été compliqué, parce que quand ils réussissent à sortir, ils sortent Will en premier et ensuite plusieurs heures plus tard ils sortent John, et quand ils sortent John il y a littéralement 400 personnes dehors, quoi. Donc tu sens que c'est quand même une grosse entreprise juste pour sortir deux gars, ce qui est, bah, quand tu vois le bordel tu te dis ouais, je comprends. Et là, on a justement une scène à l'hôpital avec John et Will qui sont amenés là, qui sont clairement en mal en point au possible, qui doivent être fixés. Et bon, il y a des petits moments encore doux amers avec leur famille, mais ça se passe pas si mal que ça, puisque finalement, on les retrouve 2 ans plus tard, qui sont clairement retraités, parce qu'ils peuvent... Ils boitent tous les deux, quoi. Ils sont un peu mal en point, mais ils sont en vie. C'est un barbecue général pour remercier tout le monde.
Il y a ça dans toutes les versions ?
Ah, je sais pas. Moi, j'ai celle que j'ai.
Oui, je m'en rappelle pas avoir vu cette scène.
Ah, bon,
moi,
bah,
j'ai
alors,
juste.
Pas,
après, je sais pas. J'ai peut-être juste loupé, mais.
Ouais. Ah, dans moi, la version que j'ai vue, il y a cette scène-là où il y a une espèce de barbecue. D'accord. Avec tout le monde. La fille de Will. Et les enfants de John, puis la famille, blablabla. Ils ont fait un barbecue en commun, en gros, tu sais. Et le film se termine là-dessus, avec justement des cartons qui disent que, bah, voilà, il y avait 4000 morts, seulement 20 ont été découverts.
Ah, si, ok, oui, si, moi, parmi je l'ai eu aussi, ça, mais j'étais endormi. C'est-à-dire 5 secondes, voilà, en fait.
Oh non, c'est pas une grosse scène, mais c'est ça que ça finit. Donc en gros, voilà, c'est quand même un film qui finalement est pas si mal, qui est pas si mal convenu, et qui, bon, bah, tu sais, quand tu connais l'histoire, tu connais l'histoire. Et au final, c'est vrai que il y a beaucoup de vide. Il y a beaucoup de vide. C'est un film qui a beaucoup de vide et qui aurait dû utiliser ce vide pour te faire peur, en fait. Mais non, qui a préféré l'utiliser pour faire du patriotisme avec Michael Shannon.
Tu vois, par exemple,
ça m'énerve, pardon.
Tu peux l'idée de vouloir rallonger le temps pour te mettre à leur place, que la longue attente quand on vient te sauver sans savoir ce qui se passe et tout. Limite, dans ce cas-là, bah tu restes plus longtemps sur eux. Tu restes limite tout le film sur eux.
Ils auraient dû absolument rester tout le film sur eux.
Mais le fait d'entrecouper avec des scènes inutiles, enfin sans intérêt, je vois pas ce que ça accomplit, quoi. Tu vois, tu fais un film plus court, mais tu vois que eux. En fait, tu sais jamais si les secours vont arriver ou pas. Bah ok, là ça apporte quelque chose, tu vois.
Et tu fais l'exposition, par rapport à leur famille sur. Juste eux qui parlent, en fait. Le gars qui dit « Ah, moi, oui, j'ai une femme, elle va accoucher. » Puis t'es genre « Ok, shit, merde. » À la limite, tu vois une image d'elle de temps en temps au début, quoi.
Mais
comme tu disais.
Mais là, voilà, cette fois, c'est pas Oliver Stone, mais c'est le scénariste qui a été feignant, quoi.
Peut-être, ouais.
Il avait peur de devoir exprimer ça uniquement par les dialogues. Bah ouais, bah écoute.
C'est,
du coup, ouais. ça rend un film qui a... qui a pas trop d'intérêt, je trouve, enfin qui loupe le coche, alors que sur le début, sur l'intro, j'étais intrigué, quoi.
Ben, c'est ça, moi j'ai été intrigué, c'est ça, intro, moment où ça leur tombe sur la gueule, on va dire le premier moment où ils sont coincés, quand Will se prend des flammes sur la gueule, mais c'est vrai qu'à partir du moment où ils sortent de ça et qu'ils commencent à aller voir voilà, la famille, bon, puis en plus, ben, la famille, ouais, voilà, comme tu dis, c'est pas une famille incroyable, quoi.
Il n'y a pas de conflit. T'sais, s'il y en avait, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, je dis un truc bateau parce que ça me vient comme ça à l'esprit, mais je sais pas, un où son fils l'avait pas vu depuis 10 ans,
oui.
Ou je sais pas, enfin bon, mais rien. En fait, là, c'est juste une famille, il a une femme, il a des enfants, et tout le monde l'aime, et c'est une famille soudée, et quand ils apprennent qu'il est là-bas, ils sont tristes, et quand ils apprennent qu'il est sauvé, ils sont contents. Voilà.
Et en même temps, le truc, ok, moi je pense que c'est surtout ça qui s'est passé, c'est que, bah, tu sais, c'est des vraies personnes. C'est des vraies personnes avec des. Il a probablement voulu être genre. Ouais, voilà, il est coincé par le fait que c'est des vraies personnes, quoi.
Ouais, mais ça, je pense que c'est une fausse excuse, du coup. Parce que là, on a prouvé tout à l'heure, en donnant déjà des idées, que sans changer l'histoire, tu pouvais rendre le film plus intéressant. Si la famille n'est pas intéressante, t'en parles pas. Tu les montres qu'à la fin ou par leur dialogue, mais dans ce cas-là et tout en étant toujours proche de ce qui s'est passé réellement.
Est-ce que c'est irrespectueux si tu les montres pas? C'est surtout ça, en fait. J'ai l'impression que qu'Oliver Stone avait un problème à se dire, ah, peut-être que si je les montre pas, les gens vont être fâchés.
Ouais, enfin bon, tous les gens qui sont morts qu'il a pas montré, ils vont pas être fâchés. Enfin, genre, au bout d'un moment, tu peux pas montrer tout et tout le monde. Non, je pense que c'est vraiment de la fainéantise qu'ils ont choisi le chemin le plus simple et qu'ils n'ont pas cherché de moyens détournés plus intéressants d'exprimer la même chose, de raconter la même chose, surtout quand c'est une histoire connue. Nous, de notre côté, peut-être moins, mais les Américains, j'imagine qu'ils connaissent encore plus le sujet. Ils devaient connaître, ça se trouve, ils connaissaient très bien ces gens.
Ouais, mais eux, justement, je pense que eux, ils sont plus sensibles à ce genre de patriotisme et de petites villes et de personnes et de trucs. Je pense que nous, ça nous intéresse pas du tout, mais probablement que eux, ils se reconnaissent là-dedans. Et j'ai l'impression que c'est peut-être pas intéressant pour nous. Mais tu vois, c'est drôle parce que plus je t'entends parler, et plus j'ai l'impression que je me suis fait manipuler par ce film-là. Et dans un sens, ça veut dire que c'est un film qui a marché sur moi. Parce que moi, tu vois, j'ai eu de l'émotion. J'ai versé ma petite larme quand ils ont été genre quand ils sont sortis machin, la musique est super cool, mais en même temps tout ce que tu dis, je suis genre ben ouais, en fait t'as tout à fait raison.
Mais moi aussi j'ai eu de l'émotion à certains moments, mais c'est ce que je disais plus tôt, en fait c'est parce que la catastrophe et le truc est tellement immense, c'est tellement un truc de incroyable que en fait limite le truc se suffit à lui-même. T'as pas besoin de faire trop d'efforts autour pour broder, et c'est peut-être là aussi le piège, c'est que vu que t'en as pas besoin, ils ont décidé de pas faire d'efforts. Et là, c'est là où quand tu vas réfléchir un peu plus, te reposer des questions, tu vas dire oui, effectivement, dépasser le stade du le sujet est tellement puissant que t'es obligé d'être un peu impacté. Et bah sur le reste, ils n'ont pas mis les outils et les moyens pour que ça soit vraiment un film marquant et que ça dépasse.
C'est un peu fainéant,
ça dépasse juste la photographie d'un moment, mais et en plus, en fait, il fait le choix de se concentrer, de pas du tout se concentrer sur le pourquoi, le comment, et de se concentrer seulement sur ce qui s'est passé. Donc ça peut être un choix intéressant, mais vu qu'il s'enlève des choses qui pourraient être en trop, mais vu qu'il n'arrive pas à rendre suffisamment intéressant ce qui lui reste, c'est dommage, parce que à côté de ça, t'aurais pu avoir un tout autre film qui lui s'intéressait au pourquoi, au comment, à la géopolitique autour, et qui aurait pu être intéressant pour d'autres raisons. Mais là, il décide d'évacuer ça, ok, pas de souci. Mais si tu fais ça, ce qui te reste, bah tu dois le bonifier. Et là, oui. Non, je trouve que c'est pas le cas.
Non, je suis d'accord. Puis c'est en plus c'est ça, c'est clairement pris par rapport à des, comment on appelle ça, justement comme c'est la réalité, c'est clairement les choses que John et Will ont probablement dit au gars qui a écrit. Je sais pas s'ils ont fait un livre ou pas là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça, si c'est l'adaptation d'un livre, je pourrais peut-être plus comprendre, mais il me semble pas que ce soit le cas. Hein.
Euh... c'est ça. Non, hein. Je vois pas de.
Non, c'est ça. Mais par contre, ils étaient
sur la page Wikipédia, en tout cas.
C'est ça. Ils étaient involved dans l'écriture, les gars, John oui, McLaughlin et Will Rimeno. Ouais. Donc ça explique que probablement qu'ils voulaient. Ça a probablement dû jouer à ça, puis probablement quoi, là, les gars voulaient que leur wife soit dedans, machin, blablabla. Mais bon, bref, ça c'est autre chose.
Mais ça, voilà, là, oui, on touche à la limite de vouloir coller absolument à la réalité, ce qui est à la fois l'avantage de, bon, on peut pas lui reprocher de tricher, et le désavantage de, bah, forcément, tu te bloques certaines possibilités. Même si je pense que ça serait trop facile de le dédouaner. Oliver Stone et un petit peu la partie scénario uniquement sur cet aspect-là en disant bah c'était pas possible de faire mieux. Je pense pas que ce soit le cas.
En tout cas, bon, je pense que ça nous fait un gros morceau sur le film en tant que tel.
C'est vrai qu'on n'a pas au final pas du tout parlé de.
On n'a pas du tout parlé de notre performance de Nick Cage. Nick Cage, qui, il faut dire, soit dit en passant, parce que j'avais écrit cette blague et je savais pas quand c'est que je vais aller la sortir, donc je vais la sortir maintenant, qui commence ses problèmes capillaires dans ce film, j'ai l'impression, parce que c'est à partir de là que ça commence à partir en couille un peu.
Tu parles de sa moustache ?
Non, je parle surtout de ses cheveux.
D'accord, je savais pas si tu comptais la moustache aussi dans le...
Non, non.
Ses problèmes de pilosité de manière générale, mais oui, bah écoute, je sais pas si ça... Ouais, je sais pas s'il y a pas déjà eu quelques indices inquiétants, mais effectivement, là ça part vraiment en cacahuète.
Mais sinon, pour sa performance en tant que telle, personnellement, je l'ai trouvé fort agréable. Je pense que le sujet a dû le calmer, entre guillemets, de faire quelque chose qui soit pas. Complètement barré et complètement cagiesque, entre guillemets. Je l'ai trouvé assez juste tout le temps. J'ai même été absolument surpris par... tu sais, le moment dans le bus où il se rend compte que ce qui est en train de se passer, c'est pas du tout au même niveau que les choses qu'il connaît, là. Il y a vraiment un moment où tu le sens... il est en mode « Bordel, qu'est-ce que je vais faire ?» Puis je l'ai trouvé... j'ai été surpris, en fait, par ce film, un peu, sa performance.
Ouais, je trouve, moi, qu'elle est super dure à évaluer. Mm-hmm. Parce que c'est un peu bizarre, t'as l'impression que c'est le personnage principal et qui prend plein de temps d'écran. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il prend pas tant de temps d'écran que ça. En fait, il peut se faire... plaisir, entre guillemets, enfin, en tout cas montrer son jeu, surtout dans l'introduction, en fait. Après, une fois qu'il est en bas, que la caméra elle est posée et qu'elle le regarde et qu'il fait tout noir et que tu vois pas grand chose et qu'il a dans les dialogues, et justement l'autre il lui dit ah bah t'es pas un mec très bavard, les phrases qu'il dit elles dépassent rarement trois mots, donc c'est compliqué de juger, je trouve. Et à part le moment où il se met à hurler parce qu'il a vraiment mal, c'est pareil, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait qu'ils vivent ça un peu de manière calme et sans avoir l'air de souffrir trop. Donc du coup...
Non, ouais, il est... Ouais,
la performance, elle est pas très marquée au final. Je vois ce que tu veux dire sur le côté... il en a pas fait trop, justement, il s'est...
Respectueux, ouais.
Voilà, c'est ça. Mais jusqu'à à quel point ça devient un inconvénient, un défaut, quelque chose qu'on peut lui reprocher. En tout cas, sur l'intro et après, il y a difficilement de points négatifs à mettre en avant. Je ne sais pas si j'aurais beaucoup plus de points positifs à mettre en avant non plus. Je trouve qu'il n'y a pas de fausse note.
Ouais.
Mais est-ce qu'il y a des moments de bravoure ? Pas forcément non plus, quoi.
C'est pas super incroyable. Je vais même aller jusqu'à... En fait, il y a même un moment où je l'ai trouvé un peu weird. C'est quand il est en train de parler avec sa femme alors qu'il est sur un brancard et qu'il est emmené à l'hôpital. Il fait une phase bizarre, puis je l'ai trouvé étrange, mais.
Ah oui, je me rappelle plus exactement ce qu'il lui dit.
Mais c'est pas mal tout ce qu'il m'avait. Je l'ai trouvé en fait tout à fait convenable. Il fait le travail plutôt bien. Et c'est vrai que quand il est censé jouer ce parce que c'est le boss, quoi. C'est un sergent ou un lieutenant ou je sais plus quoi. Là. Et ouais. Il est genre. Quand il est censé montrer son autorité, surtout au début, quand il montre, ok, ouais, c'est moi le patron, on va faire ça, ça et ça. Première partie du film, super bien.
Mm.
Deuxième partie, comme tu dis, il est coincé. C'est un peu compliqué. Troisième partie, pas si mal, mais c'est pareil, il est sur un brancard tout le long, donc c'est un peu compliqué de le.
Ouais, il n'y a pas assez de toute façon.
Voilà.
Mais je suis d'accord que la partie la plus intéressante est là où il peut plus se mettre en avant, c'est la partie introductive. Ouais.
Quand on le revoit aussi un peu dans des flashbacks, des fois ça...
Bon, oui.
Dans ces flashbacks, le problème avec ça, c'est que on le dépeint comme une personne,
oui.
T'es genre tout à fait sympathique avec ses enfants, puis c'est tout ce qu'il
l'homme
fait,
heureux en famille, voilà. La famille soudée.
Il le fait bien. Je veux dire, on l'a déjà vu jouer l'homme heureux en famille, puis c'est probablement une des meilleures dépictions de Nicolas Cage homme heureux en famille. Donc
ce sous-thème très précis, ce sous-genre des performances de Nicolas Cage.
Voilà. Donc c'est vrai que peut-être lui donner une note, ça va être un peu compliqué. C'est sûr que question folie, il y en a pas.
Très peu, ouais.
Je pense que c'est un 2, quoi. C'est un 2 sur 10.
Ouais. Ouais, ça me semble... Ça me semble...
Par ce moment de burst, voilà.
Puis et la performance...
Ouais, il est convenable, moi j'y mets un bon 7.
Ouais... C'est dur, je trouve que c'est dur à évaluer. Ouais, moi je dirais peut-être plutôt 6,5. Ouais, non, 7, c'est pas trop mal. Non, 7, c'est
non, moi je vois.
Oui.
Je trouve que c'est
non, parce que le début, il est vraiment bien quand même. Donc,
c'est toujours. Non, c'est ça, il a une bonne performance, faut être honnête. Il est pas.
Bah on va dire que les points d'intérêt de sa performance vont en baissant au fur et à mesure du film. Donc forcément, vu que généralement, tu as plus en mémoire ce qui se passe à la fin du film, j'avais peut-être tendance à le juger un peu dur par rapport à ce qu'il a montré au début du film. Donc oui, 7, ça me semble assez juste avec lui.
Bah moi, c'est pour ça que 7, je donne 7, c'est parce que pour moi, c'est une moyenne. Hein. C'est parce que il y aurait juste eu le début, je pense que je serais allé plus haut.
Ok. Bon, bah on s'est mis d'accord, donc pas beaucoup de folie, une performance correcte, mais sans plus. Mais je pense principalement liée à la façon dont le film est structuré. Hein. C'est dur de lui reprocher à lui personnellement quelque chose, en tout cas. Voilà.
Ouais, tout à fait.
Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour du film. Un format d'épisode un peu différent, on a moins résumé mais plus parlé de la structure, de la réalisation, enfin c'est aussi des choses qui nous intéressent et c'est d'autant plus intéressant sur ce genre de film que sur d'autres films un peu bateaux où il n'y a pas forcément grand chose à dire à ce niveau-là, donc là il y a toute une symbolique, le fait que ce soit des faits réels, enfin bon il y avait des choses à dire donc... c'était intéressant. N'hésite pas à nous dire si ça vous a plu d'avoir un format un peu différent comme ça.
C'est vrai, n'hésitez pas à nous dire si c'est un format que vous trouvez peut-être plus intéressant que l'autre.
Et si vous préférez ça que lorsqu'on passe du temps sur un résumé, où des fois on n'a pas forcément autant de la valeur ajoutée de la même façon, ça dépend. Après, il y a des films qui se prêtent bien au résumé, quand il y a plein de petites scénettes à évaluer, donc ça dépend. Voilà. Je pense qu'on est assez fluide dans notre format, on n'hésitera pas à évoluer selon ce que vous pouvez nous dire ou selon le film abordé. Et en parlant de film abordé, on va avoir du lourd très bientôt. Et donc, si vous voulez pas louper ça, il faut absolument nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, sur Twitter, @CitizenCagePod, sur Instagram et Facebook, CitizenCagePodcast. Et puis, il faut aussi... Ça, c'est encore plus important, peut-être même. Vous abonner sur les plateformes de streaming et d'écoute de podcasts, donc sur Apple Podcasts, sur Deezer, sur Spotify, ou sur n'importe quelle application type Podcast Addict ou celle que vous préférez utiliser, en cherchant tout simplement Citizen Cage dans l'option de recherche ou en récupérant le lien du flux RSS sur nos réseaux sociaux. Et là, donc, en parlant de gros morceaux pour la suite, là, prochain film, on va parler de The Wicker Man de Neil Labute. Donc pas le film de 73, mais bien celui de 2006, hein, le remake avec Nicolas Cage.
Est-ce qu'on peut faire celui de 76 à la place ? C'est ce que genre...
On pourrait, et on fait semblant. Nicolas Cage n'était pas top.
Nicolas Cage, il est grand, maigre, les cheveux blancs, ressemble à Saruman.
Mais non, bah écoutez, je pense qu'il y aura quand même beaucoup de choses à dire. Ça sera pas pour le. Ça sera sûrement encore un ton différent de cet épisode, très probablement. Mais on espère que ça vous plaira. Donc voilà. À dans deux semaines et n'hésitez pas à regarder le film pour nous accompagner dans notre malheur en attendant.
Restez safe et à la prochaine, les gens.
Ciao.